Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati.
Voici les titres de ce journal de ce matin sur Radio Kapi. La ville de Kinshasa accueille dès ce mardi le forum régional de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs. Objectif, échanger sur les voies et moyens de mise en œuvre effective de la stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or dans la région des Grands Lacs. Carnage de Goma, poursuite hier des audiences dans le procès inculpant deux officiers de la garde républicaine à la cour militaire. Des témoins dont le maire intérimaire de la ville ont été entendus sur des questions de fonds afin de dégager les responsabilités, nous dira tout à l'heure Gabriel Wamenya. Notre invitée, c'est Madame José Kaongia qui nous parle de la mutuelle financière des femmes africaines ouverte vendredi dernier à Goma par le ministre national des Finances. Elle est présidente du conseil d'administration de l'antenne du Nord Kivu de cette mutuelle. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Un système régional de suivi des minéraux, une solution durable pour un commerce artisanal responsable de l'or dans la région des Grands Lacs, c'est le thème du forum régional qui débute ce mardi 12 septembre jusqu'au vendredi 15 septembre à Kinshasa. Ce forum régional a comme objectif son appropriation par toutes les parties prenantes, d'échanger et de convenir des voies et moyens de mise en œuvre effective de la stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur le développement d'un système régional de suivi et cohérent. Plus de détails avec Merveille Assani.
Ce forum organisé par le secrétariat de la CIRGL et le gouvernement de la République démocratique du Congo vise à contribuer aux efforts de la réalisation du potentiel du secteur aurifère en tant que moteur de croissance économique et de développement dans la région de Grand Lac. La CIRGL et ses États membres ont exprimé leur engagement dans la mise en œuvre de la stratégie d'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or après son adoption par la 5e réunion de ministres de la CIRGL en charge de mines tenue à Brazzaville en République du Congo le 7 décembre 2018. À la suite de l'adoption de la stratégie, le gouvernement de la République démocratique du Congo a proposé d'organiser et de financer un forum régional sur sa mise en œuvre. Ce forum est organisé par la République démocratique du Congo avec l'appui du secrétariat de la CIRGL, du bureau de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région du Grand Lac et la coopération allemande.
Et puis, coup d'envoi hier lundi à Kolwezi dans le Lualaba de la 4e édition de Katanga Business Meeting KABEM. C'est pour la première fois que le Lualaba accueille ses salons d'affaires. Plusieurs activités sont prévues, à savoir les conférences et les expositions des différentes entreprises qui ont pris l'inscription. En dehors du secteur minier, un accent particulier est aussi placé sur le tourisme et l'agriculture. D'ample d'état avec Costa Moussouka, directeur général de MUSAL, initiateur de ces salons. Il est joint par Jean Gandou.
Nous sommes un salon plurisectoriel qui donne la possibilité aux petites, moyennes et grandes entreprises d'échanger, de networker. Au-delà de ça, nous avons aussi un apport très important sur la responsabilité sociétale des entreprises, car nous avons fait venir un spécialiste pour créer progressivement un baromètre d'une part, mais aussi un RSE Award qui permettra aux différents secteurs de se repositionner et d'évoluer, de faire valoir leurs actions dans ce défi qui n'est pas toujours évident. D'autre part, nous avons une application Brella qui permettra de digitaliser le salon et de passer au-delà des frontières du pays, de manière à ce que plusieurs participants puissent, depuis le Canada, les États-Unis, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et tous les autres continents, se connecter et suivre et interagir avec les personnes locales via cette application. Nous aurons deux thématiques, le tourisme et l'agriculture, qui sont des secteurs qui devraient permettre de décanter plusieurs difficultés dans le pays. Et donc, nous donnons la parole aux personnes stratégiques, tant publiques que privées, pour débattre et voir comment on peut changer l'avenir de notre pays sur ces secteurs-là.
Notons que pour cette édition à Kolwezi, il y a 100 exposants issus de plusieurs domaines. Par ailleurs, au nord Ubangi, l'état de la route nationale numéro 24 devient très délabré à la suite des pluies diluviennes. Plusieurs bourbiers se sont creusés le long du tronçon Businga-Gbadolité, long des 144 km. Il s'observe actuellement une longue file de gros véhicules embourbés avec des marchandises à bord. Du coup, c'est l'enclavement de la province, mais aussi la dégradation des conditions socio-économiques dans la province. Le point avec Paul-Richard Malingela.
Les témoins j'ai aujourd'hui au téléphone affirment que l'état de la route nationale Businga-Guadolité est plus déplorable qu'il y a un mois. La situation s'est aggravée par des pluies diluviennes qui ont multiplié le nombre de bourbiers sur la route. Conséquence, tous les camions qui venaient d'embarquer des marchandises au port de Businga à destination de Guadolité se sont embourbés. Il y a présentement des colonnes de véhicules stoppées par endroits, disent nos sources. Entre-temps, les commerçants qui avaient chargé leurs articles manufacturés se plaignent. Certains disent attendre depuis un mois. Avec la rentrée scolaire, ils espéraient réaliser de bonnes affaires avec la vente, entre autres, des vêtements, des chaussures et diverses fournitures scolaires. La rareté donc de certains produits sur le marché a provoqué la hausse des prix à Guadolité. La bouteille de boisson gazeuse est passée de 800 francs à 1500 francs, celle de la bière de 3500 à 6000 francs congolais. Un cahier de 100 feuilles qui se vendait à 1000 francs revient aujourd'hui à 1700 voire 2000 francs congolais. Notons que les transporteurs de Guadolité ont marché récemment contre l'office de route, dont le directeur provincial serait interdit de quitter la province. Car selon eux, son entreprise ne fait rien jusque-là pour la réhabilitation de cette route, principale voie d'entrée et de sortie du Nord Ubangi. Bondaka, Paul Charmanigui, la radio Okapi.
La direction générale de la Société nationale d'électricité a mis à la disposition de la direction Nord Kinshasa plus de 1000 mètres de câbles pour assainir les réseaux, ce qui a permis à la SNEL de desservir le stade des Martyrs lors des 9e Jeux de la Francophonie. C'est ce qu'explique Victor Rajabu Salumu, directeur provincial de la SNEL Nord. Il s'exprimait ainsi hier lundi au cours d'une conférence de presse ici à Kinshasa. Victor Rajabu Salumu est au micro de Paul Matendo.
La base pour l'amélioration de la fourniture de l'énergie électrique ici chez nous, à la DKN, nous avons plusieurs raisons. Il y a la haute hiérarchie qui ne fait que nous fournir le matériel pour l'assainissement du réseau. Il y a plusieurs manifestations qui se sont organisées. Il y a plusieurs exemples. La francophonie s'est tenue ici au Stade des Martyrs. C'est l'entité DKN qui gère le Stade des Martyrs. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a eu à assainir plus de 1000 mètres de câbles moyenne tension pour alimenter la ligne moyenne tension que nous appelons communément FEDER. C'est une ligne moyenne tension qui alimente les stades à partir de notre sous-station Sendwe. De la sous-station jusqu'au stade, la hiérarchie nous a donné plus de 1000 mètres de câbles moyenne tension. C'est ce qui a fiabilisé la desserte en énergie électrique au niveau du stade.
Victor Rajabu Salumu ajoute que l'autre priorité de la direction générale de la SNEL est de régulariser la situation des journaliers qui travaillent depuis de longues années avec la promesse d'une embauche, mais sans véritable contrat de travail et sans prise en charge de l'employeur. Je l'ai dit dans les titres, Honor Kivu poursuit hier lundi à Goma des audiences dans le procès inculpant deux officiers de la garde républicaine à la cour militaire. Parmi les 5 témoins présentés par l'organe d'accusation devant la cour tout au début du procès, 2 dont le maire intérimaire de la ville répondait aux différentes questions des fonds de la cour afin de dégager les responsabilités autour de la répression sanglante du 30 août dernier et ayant coûté la vie à plus de 50 personnes à Goma. Le déroulé de cette 5e audience avec Gabriel Wamenya.
Le débat a été houlé à l'audience de ce lundi avec l'audition des 2 principaux témoins à charge contre le prévenu colonel Mike Mikombe. Au cours de sa déposition devant les juges, le premier témoin, le commandant du quartier général de la 34e région militaire, est resté droit dans ses bottes. Le colonel Yves Rubenga, qui comparait en Kiswahili, a soutenu que ce sont les éléments de la garde républicaine qui ont tiré sur les adeptes présumés de la secte la foi naturelle judaïque messianique vers les nations. Quant au deuxième témoin, le maire intérimaire de Goma, il est resté évasif et inconstant dans ses déclarations. Le colonel Kapend Faustin a affirmé avoir dit « Église Oyo Ezaya Kopanza », ce qui signifie selon lui et en ses propres termes « Il faut délocaliser cette église » fin de citation. Cette réponse a provoqué un tollé de huées dans la salle. À la question de savoir qui a tiré sur la foule lui posée par l'une des parties au procès, le maire a balbutié quelques instants. Notons que la cour poursuit avec l'audition des témoins dans l'objectif d'établir et de dégager les responsabilités des unités engagées dans cette opération les jours de l'incident. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Pendant ce temps, après avoir passé 3 nuits en détention au commissariat provincial de la police de Kinshasa, le journaliste Stanley Boujakera Tchamala a été transféré hier au parquet de grande instance de la Gombe. Son avocat, qui confirme cette information, affirme que jusqu'à présent, les motifs de l'arrestation du directeur de la publication adjointe de Actualité.cd et reporter pour les comptes du magazine Jeune Afrique ne sont toujours pas connus. On écoute Maître Hervé Diakessi au micro d'Alain Irung.
Il vient d'être déféré au parquet des grandes instances de Gombe. Il avait été gardé à vue au niveau du commissariat provincial de Kinshasa. Depuis vendredi 20h, donc déjà ce délai de garde à vue était expiré et même prolongé un du mois. Et donc nous sommes au parquet des grandes instances de Gombe où nous voulons être fixés sur le statut de Stanis Boudiakera. Nous sommes en attente de son audition au niveau du parquet et selon ce qui va se passer, nous serons fixés concrètement sur la suite. Est-ce qu'il va rentrer? C'est dans les prérogatives du parquet de le laisser rentrer. Ou bien va-t-il le maintenir? Et s'il doit le maintenir, sur base de quelles préventions et quels risques estime-t-il la présence de Boudiakera en liberté causerait à l'enquête qu'il est en train de mener?
Jusqu'au moment où nous parlons, vous ne savez pas qu'est-ce qui lui est reproché?
Rien du tout. Ça veut dire que depuis qu'on a assisté aux auditions et vu toutes les enquêtes que vous menez, vous pouvez déduire vous-même qu'il a été interpellé pour être entendu par la commission d'enquête sur la mort de feu Chérubin Okété.
Pour rappel, le journaliste Stanis Boudiakera a été interpellé vendredi dernier ici à Kinshasa, à l'aéroport international d'Injili, par deux hommes qui se sont présentés comme des officiers de la police judiciaire. Stanis Boudiakera s'apprêtait à prendre son vol pour Lubumbashi. Autre nouvelle sur Radio Okapi, c'est depuis le 5 septembre de cette année que le président de la République a lancé la gratuité de la maternité et des soins des nouveaux-nés dans la ville de Kinshasa. Cette mesure s'applique déjà dans certains centres de santé, alors que d'autres attendent encore. Constat fait par nos reporters Babel Mpongo Masimango et Merveille Assani, qui ont effectué un tour dans certaines structures sanitaires de la capitale, notamment au centre de santé Bango dans la commune de Ngaliema. Voici leur reportage.
La gratuité de la maternité est effective, nous confie Ghislain Kabangé, médecin directeur au centre de santé Bangou dans la commune d'Engaliema.
La gratuité de la maternité, elle est une réalité et est effective. Et dans notre institution, au moment où nous vous parlons, j'ai des femmes qui sont en travail et l'autre, et les autres qui ont accouché et nous avons pris gratuitement en charge. Oui, il y a un système de pré-enregistrement, il y a un numéro codé, lorsque vous vous enregistrez, vous faites les stars 150. Vous aurez des questions, vous répondez à ces questions-là et vous aurez un numéro d'attribution qui vous sera attribué. Ce sera ce numéro-là que vous allez ramener dans les centres de santé les plus proches pour être pris en charge.
Ici, maman Marie, la trentaine révolue, s'est dit émerveillée de bénéficier gratuitement de la maternité. Pour elle, c'est une surprise.
Je suis venue accoucher, on m'informe sur place que la maternité est maintenant gratuite. Je ne savais pas, j'allais payer, mais une fois arrivé, le docteur me demande de garder mon argent.
Notons que dans d'autres hôpitaux où nous sommes passés, l'heure est au dernier réglage avant l'exécution de cette décision du gouvernement, affirment les responsables.
Merci à vous, Merveille Assani et Babel Mpongo Masimango, pour ce reportage. Direction la province de l'Ituri, où des organisations des femmes invitent la justice à sanctionner les auteurs des violences sur un enfant accusé de sorcellerie. Les yeux de cet enfant ont été endommagés à l'aide d'un outil tranchant. Ce drame a eu lieu la semaine dernière à Bounia, dans une église de réveil au quartier Limbabo. D'après la mère de l'enfant, l'acte a été ordonné par un pasteur qui prétendait vouloir exorciser le petit dans une chambre des prières. Au cours d'une déclaration à la presse hier, ces organisations féminines n'ont pas caché leur vive émotion en demandant aux autorités judiciaires de se saisir de ces dossiers pour mettre fin à de telles pratiques. Les explications avec Ezekiel Mouzalia.
Le petit Chance Dragima, âgé de 9 ans, s'est trouvé chez sa tante maternelle pour ses vacances scolaires. Selon sa mère biologique, tout a commencé lorsque l'enfant s'est plaint de maux de tête. Sa tante décide de l'amener dans une église de réveil appelée Corps du Christ. L'enfant est alors accusé de sorcellerie par le pasteur. Conduit dans une chambre de prière, il se voit roué des coups. La tante maternelle de l'enfant récupère ensuite une clé et arrache les yeux du jeune garçon qui a depuis perdu la vue. Témoignage.
Quand je suis arrivée, les gens commençaient à m'adresser des condoléances. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Quand j'ai vu l'enfant, les yeux sont tous arrachés. Les médecins sont inquiets.
L'ONG Réseau des associations pour la défense des droits de l'homme en Ituri, Radit, condamne cet acte avec la dernière énergie et exige des sanctions sévères contre les auteurs. Sa coordonnatrice provinciale, Janine Kabiaoura.
Cette situation nous préoccupe à être au niveau. Nous voudrions que les criminels soient vraiment condamnés et que le jugement se passe en public.
Le prétendu pasteur et la tante de l'enfant sont appréhendés et transférés à la prison centrale de Bounia. Le collectif des femmes de l'Ituri souhaite que leur procès soit public pour servir d'exemple aux autres. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo fin août, a nommé hier à la tête des deux chambres d'un futur parlement de transition des ténors de l'ex-opposition, mais aussi d'anciens caciques du régime du président déchu. Brice Oligui Nguema nomme Jean-François Ndongou, un cacique du parti déchu à la présidence de l'Assemblée nationale. À la présidence du Sénat, il fait appel à Paulette Misambo, une des principales figures de l'opposition. La nomination des membres du bureau des deux chambres du Parlement précède celle des futurs 70 députés et 50 futurs sénateurs du Parlement des transitions.
L'invité.
Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a ouvert vendredi dernier à Goma la mutuelle financière des femmes africaines, une mutuelle qui a pour objectif de rendre la femme du Nord Kivu économiquement autonome. Comment compte-t-elle y arriver? Nous recevons Madame José Kaongia, présidente du conseil d'administration de l'antenne du Nord Kivu de cette mutuelle. Elle répond dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Madame Joséphine Kaongia, bonjour.
Bonjour madame.
Pouvez-vous nous présenter la mutuelle financière des femmes africaines?
La mutuelle financière des femmes africaines, c'est une mutuelle qui date des plus de 30 ans dans l'ouest de l'Afrique. Ça a commencé au Cameroun, ça sillonne déjà dans 20 pays de l'Afrique. Et nous, présentement, je crois, nous sommes à le 19e pays d'avoir opté à l'idéologie de toutes les femmes africaines. Donc, au niveau de la RDC, c'est depuis 2020 que la Banque centrale l'a donné les numéros d'agrément. Les numéros d'agrément qui sera un numéro pour toutes les unités MIFA sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc toutes les MIFA vont fonctionner sur un même numéro, les numéros d'agrément de la Banque centrale.
Quels sont les objectifs de cette mutuelle dans cette province?
Nous sommes venus pour chercher les femmes. Donc les femmes là qui évoluent dans les secteurs informelles, formelles, pour qu'elles aient l'accès aux services financiers. Ça, c'est un. De deux, nous sommes là pour la collecte des épargnes et l'octroi des crédits. Et la mutuelle, c'est géré et créé par les femmes. Donc, nous sommes en train de chercher toutes ces femmes-là qui œuvrent dans tous les secteurs en fait qu'elles accèdent aux services financiers qui est le crédit.
Et Madame Joséphine Kaongia, quelle est la particularité de cette mutuelle financière des femmes africaines?
D'abord, la femme, elle est exclue du système bancaire. Elle est exclue du système bancaire, peut-être suite à ses faibles moyens. Alors nous, à notre niveau avec la MIFA, nous venons chercher cette femme-là qui a un faible capital pour qu'elle accède aux services financiers au niveau de la MIFA, pour que la MIFA puisse les accompagner en fait de booster leur économie.
Les portes de la mutuelle ont été ouvertes vendredi. Est-ce que les femmes ont déjà accès au crédit?
Ça fait plus d'une année qu'on est sensibilisé. On a déjà réussi déjà plus ou moins 1000 femmes. Pour ces 1000 femmes, nous avions déjà catégorisé les femmes selon les secteurs. Et je crois d'ici 7 jours, nous allons donner des crédits à plus ou moins 300 femmes. Donc nous allons travailler dans des groupes communautaires où la femme pourra accéder à nos financements sans gage. C'est-à-dire, la garantie, elle est communautaire. On travaille dans un groupe, par exemple, de 25 personnes ou 30, 50. Par exemple, je fais partie d'un groupe. Les 24 personnes qui font partie de mon groupe feront du coup mon gage. C'est là le modèle de la MIFA qui va nous permettre de rencontrer toutes les catégories de femmes.
Et les femmes peuvent bénéficier du crédit de quel montant?
Pour le moment, nous avions commencé avec le paquet de 50 $ à 1000 $ par femme. Et là, selon la catégorie et selon les secteurs d'activité. Nous sommes là pour recevoir les femmes selon les secteurs ou bien selon les domaines. Et toutes les femmes là sont déjà enregistrées. Je crois au courant de la semaine, vous pourriez aussi passer pour interviewer aussi ces femmes-là qui seront bénéficiaires.
Et là, vos portes sont ouvertes à Goma. Est-ce que toutes les femmes du Nord Kivu peuvent aussi venir pour avoir les crédits, celles qui n'habitent pas Goma?
Oui, sûrement. La MIFA, c'est pour toutes les femmes. Sauf que nous avions commencé avec la ville de Goma. Et nous sommes d'abord avec les femmes de Goma. Et après l'installation de tous les bureaux, toutes les stratégies de Goma, nous allons parcourir toute la province.
Madame José Karungia, je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration de la mutuelle financière des femmes africaines Antenne du Nord Kivu. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invitée, Madame José Karungia, était interrogée par Rosalie Zawadi. Voilà, fidèles auditeurs de la fréquence de la paix, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné et supervisé par Alain Rong-Mouchins et mis en onde par Mimi Kindou. Merci de l'avoir écouté.